Tourangue, près de Castellane, rencontre avec un vétérinaire très cro-magnon.
Pour comprendre combien l'histoire de l'humanité est étroitement liée à celle des animaux, il faut retourner à son apparition sur Terre lorsque les hommes étaient chasseurs-cueilleurs. À Tautavel, les vestiges témoignent qu'ils chassaient le renne il y a déjà 550 000 ans. La première grande révolution remonte environ à 12 000 ans avant Jésus-Christ et vient de l'Arctique où ils parviennent à domestiquer le loup qui deviendra un précieux collaborateur pour le chasseur. Cro-Magnon se sédentarise et malheureusement, l'intensification de l'agriculture et de l'élevage pousse la faune sauvage à fuir vers des territoires peu fréquentée par l'homme, qui la considère comme une concurrence à éliminer. Les espèces comme le bison ou le cheval de Przewalski deviendront alors des populations reliques. 12 siècles après sa disparition des forêts méditerranéennes, le plus grand mammifère d'Europe est de retour dans les plaines et forêts de Thuringe, qu'il partage avec le Przewalski. Ces deux espèces emblématiques que l'homme avait quasiment exterminées sont à nouveau réunies et vivent en toute liberté avec les animaux sauvages de notre terroir. C'est le vétérinaire Patrice Longour et son équipe qui, depuis 2005, ont ramené ces deux spécimens. Ils sont allés chercher le grand herbivore dans la forêt de Białowieża en Pologne et le seul cheval jamais domestiqué dans différents zoos. La réserve des Monts d'Azur est un parc qui s'étend sur une zone naturelle de 700 hectares. Elle est située à une trentaine de kilomètres de Castellane, au bas de Thuringe, dans le 06. Ici, l'homme n'est qu'un invité qui peut observer la vie quotidienne d'une partie de la faune européenne, un parcours éducatif et ludique qui incite petits et grands au respect de la nature avec un grand N. Rendez-vous sur notre site internet Castellane pour plus d'informations et de renseignements concernant la réserve. Je vous propose écoutez le docteur Patrice Longour, interviewé par Véronique Herman.
La réserve des Monts d'Azur est une réserve d'animaux sauvages dédiés à la faune européenne. Il y a les animaux européens tels que le bison d'Europe, le cheval de Przewalski, c'est d'ailleurs la première fois qu'ils sont réunis sur un même territoire. Il y a également les faunes que l'on connaît plus, comme le cerf et l'afre, le chamois, le chevreuil, le sanglier. Et en fait, dans le projet, il nous manque maintenant l'élan qu'on va ramener dans les mois qui viennent pour compléter ce qu'on appelle la guilde herbivore, c'est-à-dire pour faire que sur un même territoire, il y ait les grands herbivores européens qui soient réunis.
Quelle était votre motivation de départ en allant chercher des animaux rescapés de la nuit des temps ?
Ben justement, l'idée, c'est qu'ils sont rescapés de la nuit des temps parce qu'ils ont disparu d'Europe pour des raisons historiques très anciennes. Depuis l'Antiquité, en Europe, la faune disparaît progressivement pour laisser la place à l'agriculture. Et donc, ces animaux sont retrouvés cantonnés dans des parties de l'Europe qui sont très peu fréquentées par l'homme, essentiellement le nord et l'est de l'Europe. Donc, on est allé rechercher le bison qui avait disparu de France il y a à peu près 1000 ans, de même que l'élan. Et puis ce cheval de Przewalski, qui a une disparition plus ancienne, mais qui était présent en France il y a entre 9 et 10 000, peut-être 15 000 ans.
Sur votre site, on peut visionner différentes vidéos. Dans l'une d'elles, vous parlez du docteur Daktari, une série télévisée des années 60-70, qui vous a conduit à votre métier de vétérinaire. Daktari dirigeait un centre en Afrique et vous êtes vous-même allé là-bas en mission pour protéger les animaux. Que pensez-vous de la situation actuelle de la faune en Afrique ?
Écoutez, c'est paradoxal, mais finalement, le continent africain, pour sa partie noire, est essentiellement un continent qui est un exemple pour le monde entier, qui a su faire en sorte que les hommes cohabitent avec la faune. Finalement, la faune africaine, c'est la plus riche, la plus intéressante, celle qui existe encore de façon assez extraordinaire par rapport à la faune européenne, qui a pratiquement entièrement disparu, par rapport à la faune asiatique, qui est quand même en grande difficulté. C'est vrai que cette série Daktari, à laquelle vous faites référence, qui a bercé notre enfance, c'était aller soigner les animaux, comme Lyon Clarence et compagnie. On est dans un rapport que j'ai découvert en parcourant l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, dans un rapport qui est très différent de celui qu'on entretient en Europe. On est beaucoup moins dans le rapport chasseur-chassé. C'est pas péjoratif, ce que je dis. C'est simplement que quand on a vu un berger Peul ou un berger Maasai, un éleveur, accompagner ses troupeaux au milieu de la brousse et les faire boire au milieu des lions et des éléphants, vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement spectaculaire et extrêmement différent de ce qu'on peut voir en Europe. Je pense que dans ces pays, on a encore gardé la conscience que l'animal sauvage a une place, que cette place, elle existe. Et que les activités humaines, finalement, elles sont plutôt tolérées dans l'espace animal sauvage, alors qu'en France, c'est totalement l'inverse. Éventuellement, on tolère, encore à mon avis, de façon très peu marquée, la présence d'animaux sauvages, mais c'est vraiment très peu, y compris d'ailleurs, sans vouloir faire de polémique, mais dans nos parcs nationaux. C'est-à-dire qu'on a des parcs qui sont en principe dédiés à la faune sauvage, qui finalement comptent beaucoup plus d'animaux domestiques. On est dans un rapport totalement différent. C'est important d'inverser ce rapport parce que l'animal sauvage a une fonction dans les écosystèmes qui est beaucoup plus intéressante que les animaux domestiques. Et avoir dans un milieu naturel et pour entretenir les espaces naturels des espèces sauvages, C'est beaucoup plus intéressant ce qu'on a démontré sur la réserve des Monts d'Azur, point de vue conservation de la biodiversité, pour tout un tas de raisons, beaucoup plus intéressant que d'y mettre des animaux domestiques. Autrement dit, quand on est dans un parc national, prenons le Mercantour par exemple, mettre des moutons, c'est forcément beaucoup moins intéressant que d'y laisser les populations sauvages de cerfs, de chamois, de bouquetins, de mouflons, etc. se développer.
Comment voyez-vous l'avenir de la faune en Europe ?
L'avenir de la faune en Europe, il est en train de se jouer, il va jouer dans les années à venir. La particularité de l'Europe, c'est que l'homme s'était installé partout, mais que la modernité a fait que de nombreux espaces qui étaient autrefois agricoles sont devenus inintéressants et inexploitables par les techniques modernes, par l'homme du 21e siècle, parce qu'elles sont non mécanisables, parce que les sols sont appauvris. Il y a un retour du sauvage. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. C'est une des capacités de résilience des écosystèmes. Quand l'homme recule, la nature reprend le dessus. On peut avoir de l'espoir à la condition, encore une fois, qu'on analyse la faune sauvage non plus comme un fléau ou comme un élément qui empêche les activités humaines, mais au contraire de se dire, tiens, dans ces espaces-là, finalement, du point de vue agricole, on ne peut pas faire grand-chose. Si on y laisse se développer la faune, on va avoir des espaces naturels qui vont fonctionner, des écosystèmes qui vont être beaucoup plus riches, et on va attirer là une nouvelle activité, ce qu'on a fait sur la réserve des Monts d'Azur. On a une activité touristique nouvelle qui se fait, on a des activités de type agricole qui sont aussi des activités nouvelles. On entretient des espaces naturels, il n'y a plus besoin de tracteurs, il n'y a plus besoin de machines, il n'y a plus besoin de rien, les animaux sauvages s'occupent de tout. Et c'est une réelle richesse, hein. C'est quelque chose qu'on a fait en Afrique il y a une vingtaine d'années, ou dans des zones dites d'élevage. On s'est aperçu que finalement c'était beaucoup plus intéressant d'y laisser la faune que d'essayer à tout prix d'y maintenir des vaches. Et on s'est surtout aperçu que ces fermiers qu'on a transformés, qui étaient des éleveurs de vaches ou des éleveurs de petits ruminants, sont, au moment où je vous parle, beaucoup plus riches, entre guillemets, en abritant de la faune sauvage, parce qu'ils ont déclenché des activités de visite. Et finalement, ces activités de visite, de tourisme animalier, sont beaucoup plus intéressantes du point de vue économique que les activités qu'ils entretenaient comme ils pouvaient d'élevage d'animaux domestiques.
Avez-vous réalisé votre idéal de départ et quel est votre bilan aujourd'hui ?
Écoutez, l'idéal de départ, non, puisque de toute façon, il y a encore quelques espèces qui manquent. J'ai pas réussi à amener parce que les conditions administratives sont extrêmement complexes en France, justement parce qu'on ne tient pas compte de la présence de la faune sauvage, qu'elle est considérée comme une difficulté vis-à-vis de d'autres activités. Ça a complexifié énormément le problème. Le bilan que je ferai, c'est qu'on est sûr et certain maintenant, et beaucoup d'équipes scientifiques européennes se sont penchées sur ce qu'on a fait et copient à droite, à gauche le modèle qu'on a instauré. Donc on est sûr d'une chose, c'est que les animaux sauvages, au point de vue de l'entretien des espaces naturels, il n'y a pas mieux. Les animaux domestiques à côté, c'est vraiment peanuts, entre guillemets. On est sur quelque chose de positif à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'on aura ramené l'élan, lorsqu'on aura en présence sur le même site le bouquetin, voire le mouflon, on aura ramené la totalité des espèces herbivores sauvages présentes en Europe occidentale. Et là, oui, je pense qu'on pourra parler de réussite.